Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Gagner de l'argent, se faire une place, monter une boîte. Voilà les mots qui reviennent sans arrêt dans la bouche des trois accusés. Que ce soit Valérie Subra, ou bien Jean-Rémy Sarraud, ou encore Laurent Attab. Le trio infernal n'est en fait qu'un pâle groupe de meurtriers sans envergure.
Bonjour, une fille et deux garçons. Trois jeunes gens âgés de 18 à 21 ans qui rêvaient de fortune et d'Amérique. À la Noël 1984, la France va découvrir l'épopée meurtrière de ce trio Valérie Subra, Laurent Attab et Jean-Rémy Sarraud. Ils venaient de tuer coup sur coup un avocat parisien et un commerçant du Sentier, deux célibataires torturés à mort pour qu'ils donnent leur argent et leurs bijoux. Ces trois jeunes gens vont être surnommés les Diaboliques, car c'est dans un piège qu'ils ont attiré leurs victimes. Il a suffi pour cela que la très jolie et très charmeuse Valérie séduise ces hommes qui lui ont ouvert leurs portes. Elle a servi d'appât. Les garçons se sont ensuite chargés de la basse besogne, un trio qui n'en était qu'au début d'une série noire. D'autres cibles étaient inscrites sur leur sinistre carnet de chasse. Qui sont donc ces bourreaux d'un soir, dépourvus de scrupules, qu'ont-ils raconté aux enquêteurs? Comment une jeune femme insouciante et souriante est-elle devenue du jour au lendemain une figure du crime? Question posée aujourd'hui à nos invités.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Valérie Subra. Hiver 1984, cette jeune femme et les deux garçons qu'elle fréquente vont se profiler derrière deux meurtres. Le premier est celui d'un avocat amical et bon vivant qui n'a jamais été menacé. Samedi 8 décembre 1984, vers 18h45, Françoise Nicoulot, secrétaire de l'avocat parisien Gérard Lelédier, débarque au cabinet en rez-de-chaussée sur cour au numéro 97 de la rue de Prony, dans le 17e arrondissement de la capitale. Elle est accompagnée d'une amie, Patricia Montblus. Les deux femmes ont un mauvais pressentiment le matin. Gérard, divorcé, a oublié d'aller chercher son fils au lycée. Il ne répond plus au téléphone et il n'a pas récupéré son courrier devant la porte de son cabinet, qui lui sert aussi d'appartement. La secrétaire ouvre avec le double des clés. Les deux femmes découvrent un logement sans dessus-dessous, des tiroirs ouverts, une chaise renversée. Dans le salon, la radio est allumée. Il y a là le corps de Gérard Lelédier. 50 ans, il gît sur le dos, cheville et poignets liés. Une éponge dans la bouche, le visage est ensanglanté et la perruque que portait la victime est tombée. Les légistes notent une longue liste de sévices. L'homme a reçu des coups au ventre, au visage, frappé au crâne avec un morceau de bois qui s'est brisé, torturé avant d'être poignardé. Le ou les meurtriers cherchaient de l'argent. Ils sont repartis avec 1200 francs. Aucun dossier du cabinet n'a été volé. Hormis deux ou trois affaires de stup, l'avocat ne traitait pas d'affaires sensibles, le plus souvent des divorces ou des infractions routières. La brigade criminelle n'exclut pas le crime crapuleux, mais elle n'écarte pas non plus une agression à caractère privé ou même un sordide jeu sexuel. Ces derniers temps, des homosexuels ont été agressés et ligotés, même si une ancienne collaboratrice de Maître Lelédier témoigne que ce dernier penchait plutôt pour les jeunes et jolies femmes. Elle envoyait passer beaucoup au cabinet. Il les présentait comme des hôtesses de l'air ou des stagiaires. Gérard Lelédier avait sa table au jardin de la Boétie, dans le quartier des Champs-Élysées, un établissement chic et feutré, réputé pour sa clientèle de couples libertins, de maris et de femmes infidèles. Le jour de sa mort, vers 20h45, Lelédier a parlé à sa mère au téléphone. Il lui a dit qu'il attendait une amie pour l'emmener dîner au jardin de la Boétie, mais la table de l'avocat est restée vide. Lundi 17 décembre, 9 jours après le meurtre de l'avocat, la police est appelée à une adresse toute proche, au numéro 12 de la rue Marguerite. Le corps d'un commerçant du Sentier, Laurent Zarad, 29 ans, a été découvert dans le bureau, chambre d'amis de son appartement. C'est son frère, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, qui l'a retrouvé dans cette pièce fermée à double tour. Laurent Zarad, habillé d'un pantalon et d'un polo blanc, repose sur le sol, la tête enfouie dans un peignoir rose, ensanglanté. Autour de son cou, une écharpe bleue qui a cédé alors qu'on tirait dessus. Les pieds et les mains sont attachés avec les cordons des rideaux. Laurent Zarad a été frappé, achevé à l'aide d'un coupe-papier retrouvé sur place qui lui a perforé le thorax et un poumon. On lui a volé sa chaîne en or, sa bague aux trois anneaux Cartier et sa montre de luxe, comme l'avocat Le Laidier, le commerçant Zarade, aimait le monde de la nuit et les jolies femmes. C'était un habitué de l'Apocalypse, la boîte à la mode des Champs-Élysées. Le soir de sa mort, il devait dîner avec son frère et des amis, mais il a fait savoir qu'il avait rendez-vous avec une fille. Le frère et la sœur se renseignent dans le sentier. Ces derniers temps, Laurent a été vu avec la vendeuse d'un magasin du quartier. Valérie Subra, 18 ans, mais en commerçant les rassure. La petite, c'est une fille bien, elle est toute jeune, jamais elle n'aurait fait de mal à Laurent. Et évidemment, la brigade criminelle va vérifier qui est cette Valérie Subra, dernière petite amie en date de la deuxième victime. Il va s'avérer qu'elle connaissait aussi la première et qu'elle n'était pas seule quand les crimes se sont déroulés. On va détailler tout cela dans la suite de l'émission. Alors il faut se rapprocher tout d'abord de ces scènes de crimes qui effectivement se ressemblent à quelques centaines de mètres l'une de l'autre dans un même quartier. Bonjour Guillaume Fard.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste police-justice sur BFM TV. Tous les téléspectateurs, vous connaissent. Et puis vous êtes auteur de ce livre, Flick Stories, qui sort demain aux éditions du Rocher. Merci de nous donner la primeur de cet ouvrage. Alors si vous intéressez aux histoires de police, si vous intéressez aux personnages qui font la police, à ces grands commissaires, ces grands enquêteurs, il faut lire ce livre parce qu'il y a beaucoup de détails. Il est plein d'enseignement. Et il y a également, vous avez interrogé dans ce livre Christian Flèche, ancien patron du 36 Quai des Orfèvres, qui est avec nous aujourd'hui dans le studio L'Heure du Crime. Bonjour Christian Flèche.
Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Alors on va revenir sur vous parce qu'à l'époque vous êtes commissaire, directeur d'enquête au 36 Quai des Orfèvres et vous avez traité cette affaire au plus près puisque c'est vous qui avez notamment interrogé cette jeune femme, Valérie Subra. Guillaume Fard, Gérard Le Laidier, puis 9 jours plus tard, Laurent Zarade, tous les deux torturés, massacrés, il y a une signature criminelle.
C'est toute la question que doivent se poser les enquêteurs, et c'est Christian Flèche ici présent qui les dirige sur cette enquête. Mais il faut faire le rapprochement. C'est pas si évident de faire le rapprochement, parce que vous avez deux victimes qui, au fond, pas grand-chose à voir entre elles. Vous l'avez très bien rappelé, il y a un avocat, il y a quelqu'un qui est plutôt dans le sentier, dans le milieu du commerce.
Et qui ne se connaissent pas,
manifestement. Le textile, qui se connaissent pas. Alors, des modes opératoires qui peuvent être certes voisins. Il y a eu beaucoup de sévices, de blessures physiques. Ils sont poignardés tous les deux, peut-être pas avec les mêmes objets, mais encore faut-il faire ce lien-là. Et ce lien, alors je ne sais pas si on peut le lire dès maintenant.
Allez-y.
Comment est-ce qu'il est fait? C'est par les carnets d'adresse.
Ouais, c'est ça.
À l'époque, pas de téléphone portable, les carnets d'adresse sont papier.
Ou en note tout, évidemment, et ça laisse des traces.
Avec des abécédaires, c'est vrai.
Christian Flèche, donc le disait, vous êtes l'ancien patron du 36, on vous connaît bien, et merci encore d'être avec nous aujourd'hui dans cette heure du crime. À l'époque, évidemment, vous vous emparez de cette affaire à la CRIM, c'est vous qui allez superviser ce dossier et le suivre au plus près. Il y a cette première victime, il est avocat. Alors ça c'est sensible parce que les avocats on ne sait pas trop, il y a peut-être plusieurs options.
Bien sûr, merci de m'inviter et puis j'ai un peu de scrupule à venir pour parler de ce livre où je suis que l'un des 10 qui a été interviewé. J'ai un peu le porte-parole des autres de mes collègues, mais je le fais avec bien, beaucoup de gentillesse pour eux et beaucoup de respect aussi. Sur cette affaire, donc, d'abord, la brigade criminelle, c'est une vraie machine, une vraie structure qui a ses habitudes. Et sur une affaire comme ça, il y a un groupe d'enquête qui est désigné. Donc, ce samedi soir, lorsque pour la découverte du corps de Maître Le Laidier, c'est un groupe d'enquête qui est désigné. Et il se trouve que par le hasard des permanences, je suis le commissaire qui est de permanence avec ce groupe d'enquête, comme par l'autre des coïncidences, je serai le commissaire de permanence pour la deuxième affaire, quelques jours plus tard, dans le 17e également.
Celle de Laurent Zarade.
Celle de Laurent Zarade, qui sera avec un autre groupe. Donc, effectivement, un avocat qui meurt dans son cabinet, on a toujours tendance à penser que ça peut être à cause d'un de ses dossiers. Donc, vous avez parfaitement résumé la scène de crime. On dit qu'il n'y a pas de dossiers qui ont été volés, peut-être, sous réserve.
Il faut le vérifier,
un
évidemment.
Inventaire complet.
Ouais.
En tout cas, des dossiers ont pu être consultés. Et puis, en tout cas, vous l'avez dit, ce sont des dossiers de divorce. Il peut toujours y avoir une partie qui peut être satisfaite du résultat et qui va se venger sur la situation. Donc, on privilégie d'abord ça. C'est avec l'ordre des avocats, avec tout ça, qu'on peut éventuellement progresser, puisqu'il y a le problème du secret lié au dossier. Et puis, il y a la vie nocturne, je dirais, de la victime qui devient immédiatement plus intéressante pour l'enquête.
Alors ça, c'est intéressant. Guillaume Fard, vous y avez fait allusion, mais c'est le monde de la nuit, finalement. Oui. Ces deux victimes, elles sortent beaucoup et elles voient beaucoup de jolies femmes.
Oui, exactement, mais après, encore, il faut...
Oui, mais on avance un peu quand même.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, et en plus...
Ils ne fréquentent pas les mêmes lieux, c'est vrai.
Dans le monde de la nuit. Et effectivement, cet avocat, Maître Lelédier, il sort beaucoup. Vous avez rappelé, il a ses habitudes dans certains restaurants, dans certaines boîtes de nuit. Il y a beaucoup de femmes. Et vous l'avez très bien dit, il y en a, elles sont présentées comme des hôtesses de l'air.
Ah oui, voilà, mais il est discret, l'avocat.
Alibis, au concierge, etc. Mais bon, l'entourage de l'immeuble n'est pas tout à fait dupe sur la vie sentimentale, on va dire très riche, très dense, de cet avocat. Est-ce que c'est une piste? En tout cas, elle mérite aussi d'être explorée. Et c'est peut-être à la faveur de cette deuxième affaire que justement les liens...
On fait le lien, et vous avez parlé du carnet d'adresses. On va trouver des noms identiques dans le carnet d'adresses. Christian Flèche, il y a un défilé de femmes au 36.
Effectivement,
vous allez en interroger plusieurs.
C'était pas le moment le plus
désagréable
de la période, puisqu'on recevait des femmes. Malheureusement, elles n'étaient pas toutes à un niveau de compréhension de la situation suffisante pour être... satisfaisant, je dirais. Le boulot du premier groupe d'enquête était de savoir avec qui Maître Lelédier avait rendez-vous, quel était son dernier rendez-vous. Ce qui était un peu difficile, comme il avait une vie nocturne agitée, c'est que parfois il avait, sur la même période, plusieurs rendez-vous.
D'accord.
On ne savait pas laquelle personne il avait rencontré en dernier. Et donc il faut qu'on trouve la personne qu'il a vue pour la dernière fois vivant. Voilà, ça c'était un vrai boulot.
Ça c'est l'objectif.
C'est l'objectif de cette première enquête qui se déroule quand arrive la deuxième enquête. Et sur cette deuxième enquête, on a eu plus de chance dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé, mais peut-être en accélérant un peu les choses, c'est que on a su qu'il sortait. Et grâce à la famille de la deuxième victime, on a pu savoir avec qui il avait été vu la veille au soir dans la boîte de nuit.
Et il est vu avec Valérie Subra,
qui nous était donnée comme étant une vendeuse dans un magasin du Sentier.
Juste un mot là-dessus, Guillaume Fard. Valérie Subra, ça y est, elle est dans le paysage, mais elle n'est pas la seule, on est d'accord. Elle n'est pas connue, cette jeune femme.
Non, et là où Christian Flèche le résume bien, c'est qu'il y a un côté aidant par rapport à la solidarité des commerçants du
Sentier. C'est vrai, c'est la famille
qui est sur la
piste. Hein,
ils mènent pas une enquête parallèle, mais en tout cas, ils font leur meilleur effort pour aider la brigade criminelle. Et c'est eux qui finissent par dire, mais en fait, ils fréquentent cette jeune femme, Valérie Subra. Elle est pas inconnue dans le quartier du Sentier, puisqu'elle vend des vêtements. Et donc, après, y a la question, comment est-ce qu'on la relie, elle, à la première victime?
La jeune vendeuse va se retrouver la première en garde à vue. Jeudi 20 décembre 1984, seulement 3 jours après le deuxième meurtre du 17e arrondissement, les policiers de la brigade criminelle se présentent au numéro 49 de la rue du Caire, dans le Sentier, une boutique de vêtements à l'enseigne Jeep. Ils interpellent la vendeuse, Valérie Subra, 18 ans, jeune femme brune et souriante. Son nom et numéro de téléphone figurent dans les agendas des deux victimes. Valérie Subra ne montre aucune surprise. On remarque qu'elle porte une chaîne en or autour du cou, ainsi qu'une bague Cartier à 3 anneaux à son doigt. Des bijoux identiques à ceux volés chez Laurent Zarade. La vendeuse est conduite à l'appartement de sa mère où elle vit. On y retrouve une carte de visite de Gérard Lelédier, la première victime. Elle est placée en garde à vue, dément pendant quelques heures son implication dans les deux crimes, puis demande à voir le chef d'enquête, le commissaire Christian Flèche. Elle lui confie qu'elle n'a pas tué, mais a effectivement servi de rabatteuse dans cette histoire. C'est elle qui a choisi les victimes pour le compte de 2 garçons, juste un peu plus âgés qu'elle. Les crimes, c'était pour l'argent. En garde à vue, Valérie Subra livre les noms des 2 garçons dont le quartier général est le bar Le Martins, proche du bois de Boulogne. Le premier s'appelle Laurent Attab, 19 ans, son petit ami depuis 3 mois. Elle est amoureuse, bien décidée à faire sa vie avec lui. Attab travaille avec son père dans une société qui fabrique des sweatshirts. C'est un enfant gâté qui a toujours eu tout ce qu'il voulait jusqu'à ce que les finances familiales soient au plus bas. Il s'est alors mis à chercher de l'argent partout et à imaginer des coûts. Il voulait amasser 10 millions de francs pour s'installer aux États-Unis. Le deuxième homme, c'est Jean-Rémy Sarraud, 21 ans. Lui aussi inconnu de la police, apprenti pâtissier, qui n'a jamais terminé ses études, une scolarité en dents de scie, en rupture avec sa famille. Laurent Attab l'avait pris sous son aile. Valérie Subra explique que c'est Attab qui a eu l'idée de la transformer en appât pour séduire des hommes riches. Elle n'avait qu'à se faire inviter chez eux, les deux garçons se chargeaient de les dépouiller. Selon elle, Attab voyait les choses en grand. Il souhaitait que d'autres filles servent d'appât. Il en avait contacté quelques-unes, mais sans succès. Le 30 novembre, 8 jours avant le premier crime, Sandris, 18 ans, a cependant accepté d'accompagner Valérie chez René Bessot, 38 ans, un industriel. Mais Sandris a pris peur. Elle s'est enfuie. Attab et Saro attendaient au coin de la rue. Raté. « On se fera René une autre fois », se serait exclamé Attab. Le responsable des jardins de la Boétie était également sur la liste des cibles. Valérie Subra, mou, juvénile et voix calme, raconte les crimes avec une naïveté déconcertante. À son avocat, maître Jean-Louis Pelletier, elle a demandé combien de temps tout cela allait durer. « Longtemps », lui a-t-il répondu. En fin de garde à vue, elle a indiqué qu'elle avait tout dit et qu'elle voulait rentrer chez elle. Il fallait qu'elle passe Noël en famille. Et voilà donc pour la garde à vue de Valérie Subra. On a l'impression d'être d'ailleurs dans un jeu. Elle est très absente, Valérie Subra. Très présente dans ce qu'elle raconte, très précise, mais également très absente. Et finalement, elle a raconté énormément de choses en minimisant évidemment son rôle et en désignant les auteurs principaux des crimes, selon elle. Bon, ça, c'est plutôt de bonne guerre dans ce genre d'enquête. Il va y avoir la confession des deux garçons. Ce sera dans la suite de l'heure du crime. Christian Flech, vous êtes avec nous dans cette heure du crime. Commissaire et directeur d'enquête, je l'ai dit, au 36 quai des Orfèvres à l'époque. C'est vous qui pilotez cette enquête de la criminelle. Alors elle veut vous voir, Valérie Subra, parce que finalement elle a envie de parler au chef. Elle ne veut pas parler aux subordonnés.
Alors,
Valérie.
Mais alors, criminelle, on n'aime pas trop le terme de directeur d'enquête.
Non, mais oui, mais.
Je suis chef de section.
Vous êtes bien responsable.
Oui, je suis responsable. Et voilà. Donc, il y a chef de section, il y a des enquêteurs, un groupe d'enquête qui travaille sur ces deux dossiers. Et puis, on l'avait mise en garde à vue dans le deuxième dossier, celui où sur lequel on avait des éléments, puisqu'il y avait des bijoux qui avaient été retrouvés. Ouais. Donc, ça donnait des éléments assez forts. Et puis, à un moment donné, par rapport à toutes les difficultés qu'elle avait à justifier la possession des bijoux, elle a voulu effectivement me parler. Je ne sais pas si c'était parce que j'étais le commissaire ou si c'était le plus jeune, peut-être un peu des deux. En tout cas, c'est effectivement à moi, en tête à tête, qu'elle a voulu raconter sa part de responsabilité telle qu'elle la prenait, c'est-à-dire j'ai désigné et mes copains c'était Saro et Attab qu'on ne connaissait absolument pas.
Quelle est cette jeune femme qui est en face de vous? Elle ressemble? Est-ce que vous êtes surpris par ce personnage?
Évidemment,
je suis jeunesse,
surpris
déjà.
Parce que moi-même, je suis jeune. Je suis arrivé il y a quelques années seulement à la brigade criminelle et dans la police. Et puis en face de moi, j'ai une femme qui a 18 ans, qui paraît complètement insouciante par rapport à la gravité des faits. Et effectivement, à la fin de l'audition, pas à la fin de la garde à vue, à la fin de l'audition, elle a eu le sentiment d'avoir dit ce qu'elle devait nous dire, ce qu'il fallait, ce qui était suffisant. Et elle nous a demandé, elle m'a demandé si elle serait libre pour Noël. Et on était en novembre. Au décembre.
Elle ne réalise pas, a priori, ce qui se passe.
Elle est convaincue qu'à partir du moment où elle nous a dit sa part de responsabilité, celle qu'elle prenait, c'est-à-dire j'ai organisé en me faisant draguer, en allant chez les gens, en laissant la porte ouverte et mes copains ont fait le reste, ça suffisait, qu'il n'y avait pas besoin d'aller au-delà.
Guillaume Fard, vous êtes avec nous également dans cette heure du crime, l'un de nos invités aujourd'hui, journaliste police-justice sur BFM TV, auteur, je le cite à nouveau, du livre Flick Stories qui sort demain aux éditions du Rocher. Ce sont en fait des grands flics qui se racontent. Vous avez évidemment interviewé Christian Flech dans ce livre. 10 grands flics qui se racontent, 10 flics et un gendarme.
Neuf
policiers et un gendarme, il faut le citer. Oh là là, sinon je vais me faire gronder. Alors Valérie Subra, elle désigne tout de suite ses complices, Attab et Sarah. Alors là, ce sont deux personnages qui sont aux antipodes, les deux garçons.
Oui, parce que vous l'avez très bien résumé, il y en a un qui voit grand et l'autre qui est recruté, enfin le second qui est recruté un peu par le premier. Mais chez elle, il y a une forme de double naïveté. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a 18 ans? Est-ce que c'est parce qu'il y a une forme d'insouciance? Mais il y a la naïveté de l'audition avec Christian Flech ici présent, où elle lui dit, mais au fond, j'envisage de passer Noël en famille.
C'est surréaliste.
C'est une méconnaissance profonde de ce qu'est notre droit pénal et du fait que le plus probable, c'est qu'elle le passe en détention provisoire. Et puis ensuite, il y a un peu le côté, au fond, puisque je n'ai pas porté de coup mortel,
je risque rien.
En tout cas, beaucoup moins que les deux autres que je viens de dénoncer. Et ça, c'est quelque chose qui va la poursuivre même au moment du procès. J'imagine qu'on en parlera
bien sûr
un peu plus tard. Mais cette naïveté-là, je crois, la caractérise assez bien.
Et on va voir donc ce que vont raconter ses complices, en tout cas les deux garçons, Attab et Saro. Eux, ils ont essayé, elle le dit, d'entraîner d'autres filles dans leur aventure. Ils voyaient grand.
Oui. Attab. Et donc elle, au fond, ne serait qu'une parmi d'autres. Et ce qui minimiserait encore son rôle. Mais oui, le cycle infernal devait se poursuivre. Vous l'avez rappelé dans votre récit, Jean-Alphonse, il y a une troisième victime qui avait été à tout le moins identifiée.
Approchée.
Et puis, il y avait une forme de... Alors, est-ce que c'est du romantisme, de rêve américain, mais une volonté d'amasser rapidement beaucoup d'argent pour aller vivre autre part. Une vie un peu nomade, un peu bohème. Et donc, il fallait aller très vite pour constituer ce pactole. Et au fond, on se rend compte que par rapport à la somme qui était initialement envisagée, au-delà des 10 millions de francs, ce qu'ils avaient en termes de butin était assez dérisoire. Chez Maître Lédier,
ils
prennent pas grand-chose, objectivement. Peut-être un peu plus pour la deuxième victime.
Il n'y avait pas de coffre, il n'y avait pas de lingot, etc. Christian Flèche, est-ce qu'ils allaient faire d'autres victimes si vous les aviez pas arrêtées
à ce
moment-là?
Sûrement. Et peut-être même, d'ailleurs, le jour où on les a arrêtés. Et pour poursuivre sur ce que disait Guillaume, une partie de ce qu'ils ont trouvé, d'ailleurs, le premier soir, ils sont allés en boîte de nuit, ils ont
bu du champagne.
Dépensé une partie avec sans doute des chaussures tachées du sang de la victime. Donc, évidemment, on a vraisemblablement évité d'autres victimes, dans la mesure où au moins une des personnes qui était ciblée s'est aperçue que sa porte était ouverte et est allée la refermer alors que Valérie était à l'intérieur de l'appartement. Donc ça, c'était une tentative qui a échoué parce que la victime s'est rendue compte que sa porte était ouverte et que les deux personnes qui étaient dehors n'ont pas pu rentrer. Et puis, sans doute le soir, au moment où les deux hommes étaient regroupés, où on les a arrêtés, ils allaient récupérer Valérie et peut-être partir sur une autre affaire.
Il y avait une liste, hein? Finalement, ils avaient ces carnets d'adresses. Elle connaissait beaucoup de monde.
Elle connaissait beaucoup de monde. Après, il y a des opportunités. Ça dépend des rendez-vous qu'elle peut avoir avec tel ou tel.
Bien sûr.
Et puis, il faut que les personnes soient seules aussi.
Oui. Elle raconte juste un mot là-dessus, Guillaume Fard. Elle raconte que finalement, le planificateur, c'est le petit ami, c'est Laurent Attab.
Oui.
Ça paraît être celui qui est au centre.
Effectivement, et celui qui entraîne Saro aussi dans ce trio diabolique, comme on dira au moment du procès. Et que finalement, c'est un peu lui l'instigateur, celui qui a le plus d'ambition, y compris financière. Mais au fond, qu'en fait-il de cette ambition? Qu'est-ce que je le rappelais, si c'est pour boire en boîte de nuit le maigre pécule au regard de la gravité du crime qui plus est. Et c'est ainsi que se dessine ce trio. Et ce qui va être assez central pour l'après, c'est justement la répartition des rôles des uns et des autres.
Laurent Attab et Jean-Rémy Saro sont en garde à vue. Quel récit vont-ils faire des crimes?
J'ai eu un rendez-vous avec elle. Je suis arrivé avec un peu de retard. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas seule, qu'elle était avec deux personnes, et donc je ne suis pas rentré chez moi. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut se revoir? Elle m'a expliqué que c'était seulement des copains qui l'accompagnaient, donc j'avais aucune raison de m'inquiéter.
Jeudi 20 décembre 1984, Jean-Rémy Saro et Laurent Attab sont en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. Saro, garçon fragile et apeuré, avoue les crimes sans hésitation. Pendant 6 heures, il en livre les moindres détails. Valérie Subra était bien l'appât, elle avait rencontré l'avocat Gérard Lelédier, qui l'appelait « mon poussin ». Le vendredi 7 décembre, vers 21h, Valérie s'est rendue chez l'avocat. Elle avait le code de l'immeuble. Les deux garçons l'ont suivie. Après quelques minutes, elle est ressortie de l'appartement et leur a lancé « Il est seul, c'est ok ». Les deux hommes, cagoulés et armés, ont braqué l'avocat. Pour que Valérie ne soit pas inquiétée, ils l'ont également ligoté. Saro raconte comment Gérard Lelédy a été menacé, giflé, pour qu'il avoue où il cachait son argent. On le frappe alors à coups de bûche sur le crâne. « Il a perdu sa perruque, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais scalpé. Je suis sorti de la pièce », explique Jean-Rémy Saro. Laurent Attab lui donne alors un couteau. Il fallait tuer la victime qui risquait de les reconnaître. Saro a poignardé l'avocat à la gorge et en plein cœur. À minuit, le trio a quitté l'appartement. L'argent volé, 1500 francs, a été dépensé en champagne dans une boîte de nuit. Laurent Attab n'est pas bavard. Il faut une journée de garde à vue, des perquisitions au domicile de ses parents où l'on retrouve ses baskets ensanglantées pour qu'il avoue. Il confirme le film de la mort de l'avocat Gérard Lelédier pour le commerçant Laurent Zarade. Il explique que lui et Sarraud étaient armés de pistolets mais ne portaient pas de cagoule. Pendant qu'il frappait Zarade, Valérie Subra est sortie de la chambre pour regarder dans le salon des clips vidéo. Jusqu'à 3h du matin, les deux hommes ont essayé de faire dire à Laurent Zarade où il cachait son argent, ni coffre-fort, ni lingot. Laurent Attab a fini par achever le commerçant en le poignardant avec un coupe-papier. Et dans cette heure du crime, on retrouve Christian Flesch, l'un de nos invités à l'époque. C'est vous qui, au 36 quai des Orfèvres, à la brigade criminelle, vous supervisez cette affaire et notamment vous assistez à ces gardes à vue. Pourquoi fallait-il tuer pour ces garçons? Parce que en fait, il y a quelque chose qui est toujours étonnant, qui m'étonne un peu, c'est que pour l'avocat, le Lédier, ils étaient masqués. Donc on n'aurait peut-être pas pu les reconnaître. Par contre, pour Zarade, le commerçant, alors là, il n'y a pas de masque.
Oh, ce que vous dites, ce que vous décrivez parfaitement, est aussi, aura aussi des conséquences sur un terme juridique entre le meurtre et l'assassinat. Mmh. On peut imaginer que sur la première affaire, il n'ait pas forcément eu l'intention de tuer l'avocat, même si, bien sûr, si l'avocat était resté vivant, le point de contact aurait été la jeune femme que l'avocat nous aurait immédiatement désignée et qui ensuite, par enquête, aurait pu nous rapporter vers Jean-Rémy Sarraud et Laurent Attab. Mais dans la deuxième affaire, d'abord il y a déjà un mort, et ensuite ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de cagoule. Donc ils sont clairement identifiables. Oui. Donc il faut imaginer
qu'il faut le tuer,
ouais. Et que s'ils ne mettent pas de façon de se masquer, on peut imaginer qu'ils sont venus dans l'intention de le tuer, comme ça s'était passé la première fois, et là on rentre dans la notion juridique d'assassinat.
Donc ils ont changé un petit peu de posture, hein, entre les deux assassinats.
Il y avait un premier mort... Après,
ils sont un peu désinhibés, on a l'impression.
Peut-être, sans doute, ouais, vous avez raison.
C'est ça, donc on oublie tout finalement, on ne cherche pas à se cacher. Guillaume Fard, vous êtes avec nous également dans le studio de l'heure du crime, auteur du livre Flic Stories, qui sort demain aux éditions du Rocher, des grands flics qui se racontent, et vous faites évidemment, vous parlez de cette histoire dans votre ouvrage. Alors Attab, il va se rétracter. Il va avouer, mais avec difficulté d'ailleurs, il va se rétracter, il va dire que c'est Jean-Rémy Sarraud qui menait la danse. Alors là, c'est de bonne guerre. On se renvoie un petit peu le bébé.
Oui, mais il arrive que dans les affaires de crime que vous connaissez bien, pour les suivre quotidiennement, quand il y a des duos masculins, bon là c'est un trio, mais l'un prend parfois l'ascendant sur l'autre, recrute l'autre, finalement n'assume pas totalement ce que l'un a fait. Enfin, et là effectivement il y a ce côté on renvoie la balle. Et puis il y a ce côté aussi. Bon, pour Jean-Rémy Sarraud, j'assume puis j'assume pas aussi, parce que dire dans le cas du meurtre de Maître Lelédier, il perd sa perruque. Donc j'ai peur, ouais. Donc je m'en vais, mais je reviens et quand on me donne l'arme, je m'en sers. Et puis dans le cas du deuxième meurtre, c'est Laurent Attab qui fait le travail.
Bon, il fait le boulot. Alors, il va dire qu'il avait beaucoup hésité. Hein, oui. Il a beaucoup tergiversé. Christian Flesch, vous confirmez ça?
Oui, je pense que pour poursuivre sur ce que dit Guillaume, je pense que dans la première affaire de Lelédier, effectivement, il est pas bien. Effectivement, Attab lui donne le couteau pour qu'il le tue et Sarraud est sous l'emprise. Donc, il le fait. Il le fait et il l'assume complètement. Ensuite, lorsqu'il va avouer ses participations, il mettra en cause Attab, et on n'avait aucune raison de ne pas le croire, dans la mesure où il avait assumé un premier meurtre, il aurait pu assumer le deuxième aussi. Et d'ailleurs, Attab, finalement, finit par reconnaître sa participation, pour revenir en arrière beaucoup plus tard, cours de l'instruction.
Alors, il y a beaucoup qui assume, qui est très, très disert, qui parle beaucoup, c'est le cas de Jean-Rémy Sarraud, qui raconte très vite, il vend très vite. Beaucoup, oui, vite, ouais. Mais après, chacun, dans ces moments-là, sans doute, s'arrange un peu avec sa conscience. Si vous n'assumez pas pleinement, pas au sens de la reconnaissance, mais au sens de la culpabilité que vous pouvez porter, vous pouvez avoir tendance à beaucoup dire, avec beaucoup de détails. Et on voit que chez Laurent Attab, il y a des sortes de palinodies, des tergiversations, il vient, il repart. Bon, c'est probablement que le chemin n'a pas été le même sur le plan psychologique, j'entends.
Et j'ajoute à ça
aussi qu'il y a beaucoup d'immaturité, évidemment, hein, dans ces jeunes gens. Là, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Encore juste un petit mot, Guillaume Fard. Valérie Subra, elle a rien vu, rien entendu, elle.
Elle, de toute façon, comme ça a été rappelé tout à l'heure, dès l'instant où elle a donné à la brigade criminelle les deux noms, bon, après, c'est plus elle qui porte les coups.
Elle
se dédouane un peu. Et au fond, ça va être une des questions centrales du procès. C'est, à partir du moment où vous servez d'appât, vous êtes quoi? Vous êtes complice? Vous êtes co-auteur? Quel est votre rôle exact? Et dans quelle mesure, vu que c'est un trio, on peut vous incriminer à parité avec les deux autres, sachant que vous n'avez pas porté les coups mortels?
Un trio qui, 4 ans plus tard, effectivement, va comparaître aux assises. Vendredi 8 janvier 1988, Valérie Subra, 21 ans, cheveux tirés, pull noir, visage enfantin et yeux embués de larmes. Laurent Attab, 22 ans, blouson andin, regard fermé, et Jean-Rémy Sarraud, chemise à carreaux, petites lunettes, sont devant la cour d'assises de Paris. Seule Valérie Subra attire les regards. Une semaine avant le procès, elle a fait la couverture de Paris Match. Une photo où on la voit sortir d'une piscine, t-shirt mouillé, avec ce titre « Valérie, la diabolique ». Jean-Louis Pelletier, son avocat, s'insurge contre cette présentation qui pourrait fausser l'esprit des jurés. Valérie Subra proteste, elle aussi, elle se met à sangloter. « Pourquoi vous acharnez-vous sur moi ? Tuer comme ça, pour un peu d'argent, c'est horrible et monstrueux », dit-elle. L'avocat général annonce qu'il ne fait pas, lui, de différence entre les uns et les autres. Unis tous trois dans la préparation, unis tous trois dans l'exécution, unis dans le partage, il serait choquant qu'ils ne soient pas unis dans la condamnation, martèle le magistrat. Jean-Rémy Sarraud raconte le supplice de Gérard Lelédier, qui a duré 30 minutes. « Laurent et moi, nous sommes devenus méchants », dit-il. Pour Laurent Zarade, la deuxième victime, le président de la cour demande s'il avait été décidé de le tuer. « Oui », vont répondre Valérie Subra et Jean-Rémy Sarraud. L'avocat de la famille Zarade, François Spiner, compare le trio à Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames du 18e. « C'est facile de dire « je n'ai pas de sang sur les mains », mais vous avez du sang sur la conscience », dit-il. L'avocat général s'adresse à Valérie Subra. « Je sais qui vous êtes, une poule perverse. Vous avez l'audace, l'aplomb, l'intelligence. Je vous demande pardon. » Pardon, pardon, répond la jeune femme. Après 3 heures de délibéré, les jurés rendent un verdict identique pour les accusés, perpétuité pour tous, 20 ans de sûreté pour Attab et Sarraud, 16 ans pour Subra. Un procès où les accusés vont dire qu'ils regrettent, mais ont-ils pu expliquer ce qu'ils avaient fait à ce procès? On n'en est pas tout à fait sûr. Christian Flèche, ancien patron du 36, et à l'époque que vous étiez à la brigade criminelle, et vous avez participé à cette longue enquête avec vos collègues de la criminelle, enquête rapide et efficace, et très bien menée, il faut bien le souligner. Est-ce que vous êtes cité comme témoin? Vous venez rencontrer, vous, comment vous avez mené cette enquête, etc. C'est très classique et c'est normal. Qu'est-ce que vous apprenez à ce procès? Ou peut-être que vous n'apprenez pas, d'ailleurs?
Si vous voulez, quand on arrive devant une cour d'assises et qu'on a déjà cette affaire qui a quelques années, on arrive devant... Et avec le retentissement médiatique qu'il y a eu dans les jours qui précèdent le début du procès, évidemment, la cour d'assises, c'est un jeu de rôle, un jeu de scène, dans lequel nous aussi, on a notre part en tant que témoins, et où les avocats, chacun, ont leur rôle... L'avocat de la partie civile également, et l'avocat général. Donc, ce qu'on apprend, c'est un peu ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'on a une jeune femme qui joue la jeune femme éplorée, qui est le nez dans son mouchoir.
C'est une victime,
parce que,
finalement.
Au début, les photos que vous voyez, c'est des photos qui sont prises avant le début du procès, au moment où les journalistes ont le droit de les prendre en photo.
C'est le seul moment, d'ailleurs.
Avec le raccord, d'ailleurs. Avec l'accord, et ensuite c'est fini. Et ensuite vous évoquiez Laurent Attab. Laurent Attab a changé régulièrement de vêtements au gré des journées d'audience, et puis Sarraud était très effacé. Voilà. Après il y a le jeu des avocats, des uns et des autres, pour mettre en avant ou pas tel ou tel point, c'est de bonne guerre. Et on a clairement, si on peut pas être sûr d'avoir deux assassinats, on a au moins sûrement un meurtre et un assassinat à juger. Et ensuite, je suis assez d'accord sur la position juridique de l'avocat général, qui dit qu'ils sont unis dans la répression, parce qu'ils étaient unis depuis le début jusqu'au partage.
Guillaume Fard, journaliste police-justice sur BFM TV, et puis auteur du livre Flick Story, Cerise qui sort demain aux éditions du Rocher. Merci encore de nous en donner la primeur de ce livre où des grands flics se racontent. Alors il y a la diabolique, parce que c'est comme ça qu'on la présente, Valérie Subrat. Elle va être la vedette, parce que quelques jours seulement avant le procès, je l'ai dit, Paris Match, elle est en t-shirt mouillé, elle fait la une de Paris Match, et ça crée presque un scandale.
Oh ben ça la dessert, assurément, pour
enfin, c'est pas elle qui a posé pour Paris Match.
Ah non, clairement pas. Le dire. C'est le fait que la photo a été divulguée, et a divulguée en une de Match. Et puis ce surnom, la diabolique. Ouais. C'est un qualificatif poisseux parce que ça vous colle à la peau pendant toute la durée du procès. Et là où la ligne de défense assez classique dans ce type de procès aurait pu consister à essayer de minimiser son rôle, disant qu'au fond, elle est plus complice que co-auteur, qu'elle a servi d'appât mais elle n'a pas tué, elle n'a pas porté de coup mortel. Et vous essayez ainsi de la détacher des deux autres en créant un fil avec les jurés, qui est un fil pour la réhumaniser, en disant, bon, mais elle a 18 ans, elle s'est laissée entraîner, et au fond, ce qu'elle a fait est moins grave que ce qu'ont fait les deux autres.
Oui, c'est ce que vous disiez.
Parce créer une cassure.
Et elle aurait pu être présentée comme l'appât, quelqu'un qui a suivi malgré elle.
Si vous êtes avocat de la défense de Valérie Subrat, vous tentez la cassure du trio. Parce que sinon, vous êtes emporté. Vous êtes jugé comme les deux autres. Et la une de Match, le qualificatif de diabolique, d'abord, ça fausse sans doute ou ça biaise à minima l'esprit des jurés. Et puis, ça donne beaucoup d'arguments à l'avocat général, qui au fond la présente comme une traînée. Il la qualifie de prostituée. À un moment, il a une phrase terrible où il dit votre avenir, c'est à Barbès comme prostituée. Enfin, c'est assez sordide comme présentation. Et là où ça va la desservir jusqu'au bout, c'est que les jurés, en leur âme et conscience, et c'est leur souveraineté, ne font finalement pas de distinction et considèrent qu'il y a équivalence et que peut-être elle n'a pas porté de coup mortel, mais pour autant, c'est un trio qu'il faut voir à parité, à égalité, et chacun prend la perpétuité. Après, on joue sur la peine de sûreté, effectivement, à la 16 ans, vous le rappeliez, là où les autres ont davantage. Mais tout de même, pour elle, elle peut estimer que c'est un verdict qui est un verdict sévère.
Christian Flesch, il y a aussi le récit de ses crimes à ce procès. Et là, les crimes, ils sont glaçants, il n'y a pas d'autre terme. Il y a volonté de tuer. On n'est pas tellement habitué à l'époque d'avoir des jeunes gens comme ça qui ne sont pas connus.
Non, bien sûr, on n'a pas l'habitude d'avoir des jeunes qui sont prêts à tuer pour de l'argent aussi facilement. Et c'est sans doute ce qui a amené ce retentissement médiatique qui a abouti à des livres sur cette affaire, dont celui de Morgan Sportes, que je me plais toujours à rappeler parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et puis le film qui a été fait beaucoup plus tard, ouais, L'Appât.
Avec Marie Gillin.
Par Tavernier, oui, bien sûr. Donc, on n'a pas l'habitude. On voit des jeunes qui jouent leur rôle aussi. J'ai toujours été frappé parce que j'étais avec la famille de Laurent Zarade au moment où le procès, enfin la décision a été rendue par la cour d'assises. Et finalement, 16 ans, elle avait 18 ans au moment des faits. 16 ans, c'est quand même énorme.
Ah oui.
Et sa sœur m'a relativisé par rapport à l'âge de la victime aussi. Et elle m'a dit, tu vois, voilà, il y a quand elle va sortir, en tout cas, mon frère, il sera plus là, et donc
elle aura son âge.
Elle aura un peu plus de son âge, mais elle a refait sa vie manifestement. Et donc même si au moment où elle était en maison d'arrêt, elle a eu une condamnation qui a prolongé un peu sa détention.
Les condamnés vont donc purger leur peine, puis vont tenter de se faire oublier. En 2001, Valérie Subrat est la première à être libérée. Elle sort discrètement de la prison pour femmes de Rennes. Elle va quitter la France, se marier et avoir deux enfants. Libérée deux ans plus tard, Laurent Attab décède en 2020. Jean-Rémy Sarrau meurt, lui, en 2022. Lors du procès, Laurent Attab, qui avait eu l'idée de cette expédition meurtrière, se voyait reprocher de ne pas avoir formulé de regrets. Il avait alors répondu « Je peux pas exprimer tous les regrets que j'ai, j'arrive à faire des cauchemars ».
On est dans une spirale infernale et on n'a pas eu avant ni les uns ni les autres d'avoir le courage de dire stop. Donc on a été jusque là et donc je suis persuadé qu'il n'y a que la police qui puisse arrêter ça.
C'est la voix de Jean-Rémy Sarrau, un des condamnés dans cette affaire, et c'était dans une interview lors de l'émission « Faites entrer l'accusé ». Christian Flesch, vous avez été au contact longtemps des familles dans cette histoire. Évidemment, c'est votre rôle aussi. Vous êtes à la criminelle à l'époque, vous avez cette enquête. Vous les voyez arriver, ces proches, et vous leur parlez. La famille de Zarade, notamment.
Oui, la famille de Zarade, je suis resté longtemps, malheureusement. Sa sœur est décédée maintenant, mais j'ai été en contact avec elle parce qu'elle était avocate et qu'on se croisait aussi dans le palais de justice et qu'on se parlait. Effectivement, elle a eu un choc par rapport à sa foi, et ensuite elle a eu un choc sans doute parce que quand elle m'a annoncé qu'elle avait eu une maladie, elle l'a lié avec ce procès, elle l'a lié à ce qui était arrivé à son frère. Mmh. Voilà. Elle a eu une rémission, et ensuite elle a eu une rechute, et malheureusement elle est décédée.
Ouais, c'est ça.
Mais il y a eu une conséquence qui était évidente. Et ensuite, Saro a été dans une démarche complètement différente, parce que il sort de prison, et il accepte, ce qui était assez extraordinaire, de témoigner dans l'émission Faites entrer l'accusé à visage découvert. Où là, on découvre le nouveau personnage, où il raconte ce que l'aumônier a pu lui apporter aussi en prison, et où évidemment, derrière, les gens l'ont reconnu dans la rue. Et où il a dû... Peut-être c'était une démarche expiatoire, je ne sais pas comment il a pu arriver à ça, je découvre qu'il est décédé, mais comment il a pu arriver à accepter de témoigner dans une émission, longtemps après avoir purgé sa peine, pour raconter dans une émission de télé qu'il a tué quelqu'un.
Sans doute était-il, on dirait ça, à l'église, mais dans le repentir, en quelque sorte, hein, parce que effectivement, il y a cette démarche qui est assez troublante, et lorsqu'on revoit ces images de cet homme qui est encore apeuré, qui vit dans une espèce de tension secrète et permanente... Qui a changé physiquement, on est très surpris par le langage qu'il tient, il parle très lentement. Il faut regarder effectivement ces images. Guillaume Fard, vous êtes auteur du livre Flic Stories, qui sort demain aux éditions du Rocher, Les grands flics qui se racontent. Et parmi ces grands flics, évidemment, vous avez interviewé Christian Flesch, qui est avec nous dans cette heure du crime. Est-ce que c'est cette fille et ces deux garçons... On parle beaucoup aujourd'hui de crimes violents, insensés, cyniques, et notamment qui émanent de très jeunes, on a l'impression qu'il n'y a pas de barrière, que les digues ont cassé comme ça. Est-ce que ça préfigure pas une génération de tueurs cyniques et froids?
Moi, je crois qu'à chaque époque, si on parcourt les archives criminelles, et vous le faites beaucoup, je le fais beaucoup, on trouve des crimes sordides. La question, c'est plus qu'est-ce qui va faire qu'un crime sordide va être plus médiatisé que les autres, va l'emporter médiatiquement. Ça, c'est toujours assez fascinant.
Les personnages, peut-être.
Les personnages, le récit, mmh. Le caractère parfois spectaculaire, cruel, romanesque, les trois à la fois. Et le fait que là, il y a un trio avec une très jeune femme au milieu qui serve d'appât, probablement que c'est un déclencheur dramatique qui fait qu'il y a une focalisation médiatique sur cette affaire, qui devient ensuite un objet littéraire, puis un objet cinématographique, et puis on en parle encore 40 ans plus tard à votre micro. Et cette extrême violence-là est restée. Et puis il y a le côté piqûre de rappel aussi, d'au moins un protagoniste, on l'a rappelé, Jean-Rémy Sarraud, qui jusqu'au bout, quasiment l'année de sa mort ou l'année avant sa mort, qui raconte encore.
Ouais, et
à nouveau, un peu comme s'il était hanté par
exactement.
Ce récit.
Je crois que c'est le bon terme, il était hanté par ce récit. Qu'est-ce qu'ils sont... Alors, j'ai découvert effectivement, moi, comme Christian Flesch, que
sont morts les deux,
ouais. Ces protagonistes étaient morts, j'ignorais. Les deux sont morts, Attab et Sarraud, et puis...
Et Valérie Subra...
Valérie Subra, elle est partie.
Ce que l'on sait, bon, d'abord, elle avait suivi des études en détention, comme le rappelait Christian Flesch, sa détention a été rallongée parce qu'elle a été condamnée entre-temps. Et ensuite, elle a refait sa vie, elle a eu des enfants, et de ce que l'on sait, elle vivrait au Maroc. J'emploie le conditionnel, parce que c'est pas, en tout cas, confirmé, consolidé. Et elle, pour le coup, elle a une très 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 grande discrétion.
Oui, mais elle a effectivement tourné la page, sûrement, et peut-être effectivement fait son deuil de cette histoire et refait sa vie. Elle a payé de toute façon sa dette à la société. Christian Flesch, à l'époque, à la brigade criminelle, ça aussi, je voudrais poser la question. Est-ce que vous avez percevé que cette affaire, elle est un peu hors norme?
Non, encore une fois, c'est très très difficile pour nous, quand on est dans les enquêtes, d'arriver à avoir du recul par rapport à tout ça. Parce que vous évoquez 84-85, Spinner a évoqué donc
l'avocat
Thierry Paulin. Ouais. C'était au moment, effectivement, où il y avait les personnes âgées dans le 18e qui étaient agressées par Thierry Paulin et Mathurin. Et donc, c'était un vrai sujet de la brigade criminelle. Et puis aussi, c'était une période où il y avait des attentats très régulièrement. Donc, la criminelle prend des dossiers. Alors, un dossier chasse l'autre et elle n'a pas le temps d'avoir ce recul qui, heureusement, a été fait par d'autres et qui nous permet maintenant d'en parler, comme le disait Guillaume, 40 ans après.
Oui, c'est ça. Donc, vous aviez pas à l'époque...
Non, et même on arrive...
Même si vous étiez surpris par la jeunesse des protagonistes.
Bien sûr, on est surpris par la jeunesse. Mais vous savez, on est toujours surpris comment des gens peuvent arriver à en tuer d'autres.
Et vous posez toujours cette question.
Bien sûr, parce que chaque dossier est différent. Dans le bouquin de Guillaume, il y a Ange Mancini qui dit que la brigade criminelle, c'est la culture du doute. Donc, on est là et on est sur un dossier, on a un doute. Et finalement, on découvre des situations où des gens prennent des plaisirs à tuer de telle ou telle façon. Où là, ils ne prennent pas de plaisir, ils tuent pour avoir un peu d'argent.
Guillaume Farge, je termine cette émission avec vous. Un petit mot. 10 grands flics interrogés, dont un gendarme.
9 et un gendarme.
Voilà. Il y a 10 personnalités, 10 manières de mener des enquêtes, c'est ça ?
Absolument. Et en fait, là où on aurait pu faire un livre qui est une collection d'affaires, on a fait une collection de personnalités et d'enquêteurs. Et donc, ça permet de revisiter plusieurs affaires. Et à chaque fois, la même surprise face aux sordides des crimes. Christian Flech citait Ange Mancini. Ange Mancini, c'est l'occasion d'évoquer l'affaire du japonais cannibale.
Ah oui, Issei Sagawa.
Bien connu à RTL dans l'heure du crime. Parce que un jour, il est de permanence. Ça arrive souvent comme ça. Et il se retrouve avec un corps dans une valise qui a été en partie mangé. Bon, bah oui, il n'y a pas de limite dans le sordide.
Merci infiniment, Guillaume Farge. Je rappelle le titre de votre livre, Flick Stories, qui paraît aux éditions du Rocher, et Christian Flech d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef Justine Vignon, préparation Marie Bossard, Marie-Lou Goyer, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.